Donc, je redis bonjour à toutes et à tous, hein. Merci de venir pour cette session 2 du webinaire où nous accueillons Konrad Insen qui va nous parler d'interactivité. Et puis, voilà, vous avez sur le HackMD l'ordre du jour. Donc, rapidement, hein, je reviens dessus. Donc, Konrad Insen va nous présenter 20-30 minutes sur l'interactivité du notebook avec une petite démo. On va avoir une information sur le Zotero du groupe de travail avec un appel à participation par Raphaël. Quelques infos sur la JupiterCon qui, alors je sais pas si ça se dit comme ça, oui, JupiterCon, je pense, qui a lieu en mai, je crois, et qui va nous être faite par Emilien Schulz. Et voilà, et puis on va discuter entre nous et puis avec Konrad sur évidemment ce qu'il aura présenté. Et puis on aura un petit retour rapide sur la préparation du webinaire 3 où on a déjà les intervenants, donc on vous fera une rapide présentation. Voilà. Bah du coup je vais pas tarder plus et puis je vais passer la parole directement à Konrad. Je vais le laisser du coup se présenter puis on enchaîne sur la présentation. Il est 35, c'est parfait. Voilà. Ah,
Un petit
Raphaël, vas-y.
point juste
Excuse-moi.
logistique. Donc, je vous ai mis, et Sébastien, vous l'avez mis aussi dans le chat, le lien vers le HackMD, en fait, qui est la prise de notes collaborative. Pour tous ceux, toutes celles qui sont présents, voilà, qui s'interrogent, en fait, pour participer un petit peu à ce groupe ouvert, vous pouvez mettre déjà votre nom en tant que présent à ce webinaire.
Super.
Et à ce moment-là, vous pouvez suivre, prendre des notes, mettre aussi des commentaires. Directement dans le HackMD, sachant que les commentaires qui seront dans la discussion publique, éventuellement je la reporte, bien entendu aussi dans ce HackMD, voilà, que Conrad nous a affiché. Donc vous pouvez mettre votre nom là où il y a marqué les présents, voilà. Et
Super.
puis vous avez d'autres éléments en dessous, la suite et le déroulé. Merci Conrad.
Merci Conrad, bah, c'est à toi.
Bon, merci pour l'introduction. En fait, j'ai montré le HackMD pas seulement parce que c'était le sujet, mais aussi pour dire que j'ai pré-rempli un peu des choses ce matin. Donc, il y a des liens ici que vous pourrez explorer après. Je vais faire référence à un moment donné à des démos d'autres que vous trouvez sur YouTube. Voilà, les liens sont ici. Donc, vous trouvez des documents supplémentaires et n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Alors, je commence. C'est 25. Voilà. Donc, bon, alors, petite introduction. Je m'appelle Konatin. Je suis chercheur en biophysique, en physique statistique de formation de base. Et donc, depuis de longues années, je pratique plutôt la biophysique moléculaire. Et je suis au Centre de biophysique moléculaire à Orléans et aussi chercheur associé au Synchrotron Soleil à Saint-Aubin. Je travaille avec mes techniques principales, c'est des simulations moléculaires. Donc, je passe ma vie dans les ordinateurs. Devant les ordinateurs, devant les écrans, avec toutes sortes d'outils, y compris les notebooks. Et un de mes grands sujets des dernières années, c'est la reproductibilité computationnelle, ou son absence, qui pose souvent problème. Et c'est aussi dans ce cadre-là que je suis arrivé de façon un peu indirecte au sujet d'aujourd'hui, l'interactivité. Et pour vous expliquer tout ça, je commence à ouvrir le grand Larousse. Non, c'est pas vrai. Le site web larousse.fr. Je suis quand même dans le monde moderne et j'ai pas cette place pour un grand Larousse. Alors, qu'est-ce que dit Larousse sur l'interactivité? Il dit que c'est la qualité d'un logiciel dont l'exécution prend constamment en compte les informations fournies par l'utilisateur. Bon, fournies, hein, on est des fournisseurs d'informations, mais bon, pourquoi pas. Et il faut, à mon avis, le mettre en contraste ou opposition, comme on veut, avec un autre terme qui est l'automatisation, qui, d'après Larousse, est l'exécution totale ou partielle de tâches techniques par des machines fonctionnant sans intervention humaine. Donc, la différence entre les deux, c'est l'intervention humaine. Et tout ça, ça coexiste depuis un petit moment dans les systèmes informatiques. Et en fait, on a vu globalement deux perspectives sur le calcul, sur l'utilisation des ordinateurs. Et le tout premier, avec les premiers ordinateurs vraiment utilisables dans les années 1940, c'était de voir le calcul comme un processus automatisé. Donc la belle théorie, c'est la machine de Turing, hein. Vous mettez un ruban avec des symboles, vous poussez un bouton et ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça s'arrête. Et bon, la réalité des vraies machines, c'était pas très différent. Donc, on met des données d'entrée, des logiciels, du code dans la mémoire de sa machine, on pousse un bouton, la machine tourne et s'arrête à un moment donné. Donc, les premiers ordinateurs, c'était vraiment ça. J'ai encore utilisé une machine comme ça, qu'on avait dans notre lycée. C'était un cadeau du centre de recherche de Jülich qui n'avait plus d'utilité. Un ordinateur qui avait comme sortie 32 petites ampoules pour faire une sortie en binaire. Donc là, on fonctionnait comme ça, on mettait ces entrées avec des petites touches et c'était assez rigolo. Donc là, le principe, c'est qu'il y a le calcul des processus automatisés. Donc on a code, donné d'entrée, on pousse un bouton, on a le résultat. Et c'est pas très différent d'aujourd'hui de lancer un programme en ligne de commande, c'est globalement encore le même mode de fonctionnement. Donc on a des points de départ et des fins bien définis, hein, sauf en cas de pas de fin, hein, boucle infinie, etc. Mais normalement c'est bien défini. On a typiquement une belle distinction code et données, pas forcément à l'échelle du processeur, mais à l'échelle de l'utilisateur, c'est assez clair et net. Et donc on a notamment la notion du logiciel, un outil virtuel, un objet technique bien défini, typiquement qui a un nom, qui a des versions, qu'on peut télécharger quelque part. Donc c'est une Il y a une identité de logiciel derrière. Donc là, aujourd'hui, c'est le calcul en mode batch, c'est encore très courant dans les centres HPC, par exemple. Et sinon, bah, un processus sur une machine Unix, y compris un smartphone, hein, c'est une machine Unix aussi, c'est tout à fait dans cette perspective du calcul. Mais il y a une autre vue, une autre perspective qui s'est développée depuis les années 1960, que l'utilisateur est en dialogue avec une machine. Et ça a dû attendre un peu parce qu'il faut à peu près réserver une machine à une personne, mais vu le prix des ordinateurs, c'était pas évident au départ. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une boucle infinie. Commande résultat, commande résultat, commande résultat. Moi, je demande quelque chose à l'ordinateur et j'ai un retour immédiat. Et après, j'enchaîne en fonction de la réponse, je formule ma prochaine demande, ma prochaine commande. Et donc du coup, du côté ordinateur, du côté des systèmes logiciels, il y a un état du système évolutif. Hein, chaque fois que je tape quelque chose, ça change l'état de l'ordinateur, parce qu'il garde en mémoire et qui accumule les informations que je fournis. Du coup, ce que je fournis en information, c'est autant du code que des données, et la différence entre les deux, la distinction commence à se dissoudre un peu. C'est beaucoup moins clair et net. Hein. Et il n'y a plus du tout la notion du logiciel comme un objet technique ou même comme objet tout court parce que bah, il y a des bouts de code, il y a des bouts de données, c'est plutôt une sauce où tout est bien mélangé, bien épicé, etc. Donc on a plutôt la vue, j'interagis pas avec un logiciel mais avec un système programmable. Et donc là, les grands représentants de cette ère et cette approche, les toutes premières, c'était les machines Lisp machines, c'était le nom des ordinateurs, c'était les ordinateurs faits pour fonctionner dans un tel mode. Dès qu'on les allume, il n'y avait rien d'autre. Le langage de programmation était Lisp. C'était une machine extrêmement chère, mais les gens qui s'en sont servis en gardent des bons souvenirs. Je n'ai jamais touché un tel matériel, mais je connais pas mal de monde qui a fait et ils disent tous que c'était la meilleure expérience de programmation de leur carrière. Il reste une faible copie aujourd'hui, c'est Emacs qui veut un peu fonctionner dans ce monde-là, mais qui est quand même beaucoup plus inséré dans un monde Unix traditionnel et ça n'a rien à voir avec les systèmes de l'époque, Lisp machine. Sinon, même avant ou en contemporain avec Lisp, il y avait les systèmes APL. Là, ça se tournait au départ plutôt sur des grands centres de calcul. Mais là déjà en mode interactif, déjà dès les années 70 sur les machines IBM, c'est IBM qui a travaillé sur ce langage et qui l'a mis en avant. Après avec des terminaux graphiques, il y avait des systèmes vraiment formidables. Je m'en suis servi pendant ma thèse en 1990. Et pareil, je raconte encore à tout le monde aujourd'hui que c'est le meilleur environnement de calcul synthétique que j'ai jamais utilisé de ma carrière. Puis il y a la troisième famille, c'est les systèmes Smalltalk. Je ne vais pas en dire grand-chose parce que vous aurez une démo plus tard de ma part, qui date aussi des années 1970. Ils sont vraiment bien développés les années 1980. C'est pareil, à l'époque, on allumait la machine, on était dans un environnement Smalltalk, il n'y avait rien d'autre là-dessus. Donc c'était la totalité de l'ordinateur. Dans la même catégorie, il y a un exotique, c'est les langages Forth. Ça fonctionne sous le même principe, mais c'est extrêmement différent parce que ça s'adresse au système imbriqué aujourd'hui, au système faible performance qui font du contrôle, etc. Donc c'est un langage vraiment bas niveau pour le contrôle du système, mais c'est pas du tout la même catégorie, donc c'est un peu anecdotique. Et après, maintenant on se rapproche de notre thème des notebooks, il y a eu toutes sortes d'hybrides, je dirais, entre le processus automatisé et le système interactif. Donc on a eu d'abord les interfaces interactives au processus, et donc notamment les environnements de genre desktop, qu'on connaît tous, sont des logiciels comme Word, Excel, comme GIMP, Inkscape, et tout ça, c'est la même idée. Donc il y a encore un logiciel qu'on lance, qui est un processus, mais ce processus interagit par une interface graphique avec l'utilisateur pour faire des choses qui ne sont pas vraiment du calcul, comme faire un dessin, taper du texte, c'est pas vraiment le calcul. L'ordinateur n'est pas vraiment utilisé dans un but initial. Et donc, en dessous de la couche interactive, il y a une couche technique qui est encore des processus, des fichiers, comme tout à fait le Unix classique. Et la même chose avec les environnements smartphones, qui sont des versions réduites en taille de cette approche-là, avec encore des applications isolées, mais qui fonctionnent en interne avec un processus classique. Et la couche technique est complètement verrouillée, donc il faudrait faire un grand effort pour pouvoir taper une ligne de commande sur un smartphone, c'est pas prévu. Donc on cache complètement cette couche-là, mais elle est tout à fait là. Et l'autre, et là on est vraiment dans notre sujet, c'est les documents computationnels. Donc concrètement, des notebooks, hein, c'est presque des synonymes, je dirais. Donc là, on met du code dans l'interface graphique. Donc j'ai un outil graphique devant mes yeux, je tape du code, je demande son exécution en interactif et je visualise les résultats comme réponse. Et donc là, avant les notebooks, c'était les tableurs, hein, Excel, VisiCalc, c'était les premiers. C'était ça vraiment les premières applications de ce type-là, de documents computationnels. Et donc aujourd'hui, nos notebooks. Et là, aujourd'hui, les notebooks, en fait, depuis bien longtemps, ont même l'interactivité à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est la définition du notebook, c'est l'exécution des cellules de code. Mais le deuxième, hein, qu'on utilise peut-être un peu moins ou dont on parle un peu moins, c'est des outils interactifs qui sont générés par le code dans les cellules. Et je vais vous montrer ça ici avec des petits exemples. En Jupyter, ça s'appelle des widgets. Sauf que j'ai fait une erreur, j'ai mis deux fois la même image. Bon, c'est l'image pour Mathematica, qui est à ma connaissance était avant. Donc l'idée, c'est qu'on tape une ligne de code et le résultat, c'est un objet interactif sur lequel je peux ici glisser le bouton pour changer une valeur. Et je peux, dans les autres cellules de mon notebook, faire référence à cette valeur. Et du coup, je peux pas seulement exécuter le code de façon interactive, mais aussi varier des paramètres de façon interactive. On peut également interagir avec des cartes, des images qui sont présentées comme résultat. Et du coup, il y a même aujourd'hui des petites extensions de notebooks qui permettent de cacher complètement le premier niveau, les cellules de code, dire que voilà, le notebook n'est plus rien d'autre qu'une façon facile de créer des interfaces graphiques pour un utilisateur qui ne veut pas voir le code. Donc, il y a par exemple des Jupyter Dashboards qui fonctionnent de cette façon-là. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, pour la suite, c'est est-ce qu'on peut être plus interactif que Jupyter ou plus interactif que Mathematica? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et mon idée, mon réponse est oui. Et ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est un système qui prend les notebooks, les hybrides de l'autre côté. Donc, on part d'un système complètement interactif, concrètement, système Smalltalk. Et on rajoute des notebooks dans ce système-là, plutôt que de les mettre en couche au-dessus des processus Unix. Et je vais vous montrer le système que j'utilise. Donc, il y a les liens, si vous voulez, dans les notes que je vous ai fait préparer là. Donc, cet outil-là s'appelle Glamorous Toolkit. C'est un joli nom, hein. Et la couche technique, là, est un Smalltalk moderne, s'appelle Faro. C'est un Smalltalk open source, mais ça suit la ligne de développement du Smalltalk des années 80. L'intermédiaire entre les deux, c'est un système qui s'appelle Squeak, qui est très connu aussi. Squeak, c'était la tentative de sortir Smalltalk des machines dédiées très chères et les mettre sur des machines ordinaires comme logiciel supplémentaire. Et Faro a commencé comme fork de Squeak et m'a pris quelques petites différences dans les développements. Et c'est aujourd'hui un projet open source, géré d'ailleurs largement à l'INRIA de Lille, hein, où sont la plupart des développeurs. Et Glamorous Tool est un système expérimental qui remplace complètement la couche graphique par un autre. Les outils, l'interface utilisateur est complètement différent et intègre un système de notebook. Mais là, comme je vous ai déjà dit, on perd la notion de logiciel. Ici, j'ai devant mes yeux un système avec des outils. Ici, à gauche, il y a une barre d'outils. Donc, j'ai un playground. Là, je peux taper des commandes. Je peux demander comment faire 2 plus 3. Je peux exécuter ça. Et ça me dit, le résultat est un small integer, c'est 5. Voilà. Alors, ça, c'est un peu banal. Hein. Mais si vous regardez bien, ce playground, en réalité, c'est un notebook. Parce que je peux aussi mettre des commentaires ici. Et je peux encore rajouter du code. Bon, je ne suis pas très inspiré là, j'ai fait des calculs un peu bidons. Hein. Et vous voyez ici, les résultats s'affichent à droite. Et je peux les inspecter. Je peux, bon là, je sais que c'est pas très intéressant de prendre des entiers comme, ah je sais ce que je vais faire. Je vais faire une division, au moins ça donne quelque chose de plus intéressant. Ça donne une fraction, donc ça dit c'est 4 tiers, donc il me donne ça en flottant. Et je peux avoir la représentation mémoire. Je peux avoir ici accès à la totalité des opérations qui existent sur les fractions. Donc tout ça, c'est je suis dans un système interactif d'A à Z. Donc mes cellules de code dans le notebook, c'est juste une porte d'entrée à des calculs qui donnent des objets que je peux inspecter, que je peux modifier. Je pourrais ici, je n'ai pas choisi le bon exemple, mais je pourrais rajouter ou modifier des opérations sur les fractions. Je n'ose pas vraiment. C'est pas une bonne idée de redéfinir l'addition de fractions, mais je pourrais le faire. Donc, je m'abstiens. Mais cet outil de notebook ici, ça fait partie d'un système plus large. Donc, il y a aussi un système de... Ça, c'est l'interface de programmation principale de cette interface-là. Donc là, j'ai des paquets. Dans chaque page, j'ai des classes. Donc, Smalltalk est un langage orienté objet. Donc, la partie essentielle, c'est des classes. Donc ici, c'est l'interface pour travailler sur des classes. Donc là, c'est le nom de la classe, c'est les méthodes de la classe que je peux maintenant ouvrir, fermer, regarder. Je peux les modifier tout de suite si je veux. Mais le code est une base de données. Donc, c'est pas du texte, c'est pas des fichiers texte. Donc, je peux, par exemple, demander au système, ici, la liste de tous les codes dans le système qui utilisent cette classe. Donc là, par exemple, je vais voir quelque part, c'est, voilà, souligné en jaune, c'est la classe qui est utilisée. La classe a un commentaire qui est affichable aussi. Je peux demander des exemples qui montrent comment utiliser cette classe. Donc, il y a plein de choses qu'on peut avoir par une interface d'exploration du système. Et donc, là-dedans, il y a les systèmes, notamment les notebooks. Sauf que ces notebooks-là, c'est pas contrairement à l'approche Jupyter Mathematica, où le notebook est un peu dans l'image du logiciel, est un objet, une page, un document. Ici, ça fait partie d'un système, encore une fois. Et donc, c'est organisé de la même façon que les wikis, comme vous savez peut-être des Wikipédia. Donc, en fait, chaque page, chaque notebook est en réalité une page wiki qui a son titre et qui peut faire référence aux autres pages. Donc, ici, vous avez le catalogue des pages. Et franchement, j'en ai autant que ce catalogue-là, je m'en sers jamais. En réalité, ce que je fais, je prends le moteur de recherche intégré dans ce système pour chercher. Et donc là, je vais vous montrer pour quelques détails, je vais chercher la page qui est prévue, qui fait partie de la documentation du système, sur les notebooks intégrés, sur le système de scripting. Voilà, donc ça c'est, là vous voyez la totalité de la documentation du système. Tout le système est documenté par ce système de notebook. Et donc là, vous avez du texte en markdown. Là, vous savez peut-être mieux, on va ici, si je vais à l'avant, vous voyez le H là qui est pour les titres. Donc, c'est vraiment du markdown. Même ça, les liens, c'est du markdown. Si je me rapproche, donc le lien vers une autre page, c'est entre double crochet. Mais je peux tout à fait cliquer là-dessus et je bascule sur une autre page. Je peux aussi de nouveau fermer. Je vais un peu vite là. Enfin, je reprenne cette page-là. C'était celle-là. Hop. Voilà. Et ça, ce sont des bouts de code qui sont dans là-dedans. Donc là, bon, ça, c'est peut-être pas le code le plus intéressant. Prenons ça. Voilà. Donc là, il dit par exemple, je peux explorer, je peux accéder à un site web, par un serveur web, par son API. Donc là, je le récupère chez GitHub des opérations. Bon, si ça vous intéresse. Et encore, le résultat, c'est affiché avec des vues spécifiques qui me facilitent l'exploration du résultat. Donc en fait, ce qu'ils font les widgets en Jupyter, c'est ici la façon normale de travailler avec n'importe quel objet, que ce soit dans un notebook ou autrement. C'est toujours présent. C'est dans le même système, dans le même langage. Il n'y a pas les widgets écrits en JavaScript qu'il faut, qui sont gérés par un autre gestionnaire de paquets, etc. Vous avez un système uniforme et ça facilite très largement l'utilisation. Peut-être prendre l'exemple graphique, c'est plus intéressant. Là, je vais regarder ça. C'est une autre page qui montre comment on peut utiliser un système de visualisation basé dans ces notebooks, intégré dans ces notebooks. Donc là, ça c'est simplement le code qui me dit, qui fait une liste de toutes les pages de tous les notebooks dans ma collection. Et maintenant, je fais un graphe qui montre les liens entre les pages. Bon, c'est un peu la cata, hein, c'est la foule. Mais juste pour vous dire que chaque point, c'est une page de notebook et je peux l'ouvrir. Hein, c'est pas du tout un graphe mort, hein, c'est animé, c'est interactif aussi. Tout est interactif ici. Et donc ils disent que bah, pour le nettoyer, on peut extraire, on peut supprimer le point central qui est connecté avec tout. Et là, c'est bien un peu plus visible. Donc on voit des clusters plus liés que d'autres. Et après, ils disent que bon, ben, on peut encore faire mieux que ça. On peut ici, ils mettent toutes les pages en rouge qui contiennent un mot-clé. Donc, du coup, ça saute mieux aux yeux où ça se trouve. Donc là, maintenant, j'ai des trucs rouges et maintenant, je peux cliquer sur un point rouge et aller dans ma page qui est encore un autre notebook. Donc là, on a un wiki de notebook avec des cellules code qu'on peut exécuter en interactif. Et qui donne comme résultat des inspecteurs interactifs sur un objet quelconque. Donc ça, c'est le niveau d'interactivité auquel je suis habitué ces derniers temps. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a goûté à ça, on n'a pas tellement envie de revenir, même pas au notebook comme Jupyter, et encore moins aux lignes de commande, éditer un script en Emacs et lancer. Franchement, ça devient pénible quand on est habitué à autre chose. C'est pas encore tout. Maintenant, je vais vous montrer le niveau supplémentaire que j'ai intégré moi-même là-dedans. Donc, ça, c'est la collection de documentation du système qui est livré avec. Hein. C'est pas moi qui l'a fait. Ça, c'est moi qui l'a fait. C'est mon petit livre à moi. Où je me suis mis à poser la question, comment peut-on faire mieux documenter le calcul scientifique par un tel système? Et bon, je vais vous montrer un exemple, plutôt qu'aller dans les détails techniques, prenons ça. Voilà, donc ça c'est une petite simulation. Et la particularité, est-ce que vous pouvez voir ça, ou je devrais le mettre en plus grand, est-ce que le texte est assez grand pour lire? Non. J'ai pas de retour, donc...
Oui, c'est grand.
C'est quand vous voulez lire, ok. Donc là, c'est un texte qui explique, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, les équations de Notkavotera, c'est un grand classique du début du XXe siècle, ça a une bonne centaine d'années maintenant. C'est un modèle pour un écosystème de deux animaux, deux espèces, où l'une espèce mange l'autre. Et donc, ça prend la forme d'équations différentielles que vous trouvez ici, dans ma notation à moi. Donc c'est une dérivée du temps. Bon, je ne veux pas aller dans les détails, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est pourtant que ce sont des équations qui sont dans mon texte. Ça, c'est des cellules texte, c'est pas des cellules code. Et si vous regardez bien, c'est du Markdown avec une extension. Donc j'ai rajouté une extension à Markdown pour intégrer les équations, et du coup je peux interagir avec les équations. Donc là, je peux la mettre en grand, je peux voir les types de tous les termes, les sous-termes là-dedans. Donc là, c'est une constante qui est un réel positif, etc., etc. Là aussi, je peux faire référence à ces genres de termes dans mon code, dans mon texte que j'explique. Donc, c'est un peu comme les formules mathématiques dans un texte classique. je peux insérer du code. Sauf qu'ici, bah, c'est, je peux le traiter par du code. Donc, je pourrais, je n'ai pas tout dit encore. J'ai encore chaque inspecteur d'objet a son propre petit notebook. Donc, je peux mettre des contextes, des commandes ici et travailler là-dessus. Bon, je ne vais pas trop aller dans les dents maintenant. Mais pour vous dire que vraiment, les notebooks sont insérés partout dans le système ici. Donc là, ce que j'ai fait maintenant, donc là, c'est une cellule code. Hein, et la particularité, et c'est quelque chose qu'à ma connaissance, on peut pas faire avec un notebook du genre Jupyter ou Mathematica, ce code lit le texte dans les cellules texte avant. On extrait les codes et les constantes, ici à des valeurs, les valeurs numériques par exemple. Là, j'ai mis une constante à 1,1 et une autre à 0,1. Et donc je lis donc par exemple ça s'appelle delta, je le lis ici. Qu'est-ce que je l'ai fait? Non, c'est pas le delta, ça fait partie des équations. Donc là je lis les équations, je fais des références aux équations, et ce sont ces équations-là. Qui sont les versions discrétisées des équations de Mercator-Volterra. Et du coup, je me fais les calculs avec. Et du coup, ben, le résultat, c'est une simulation. Ça me donne des séries de temps. Je peux faire un plot. Donc, c'est les populations des deux espèces en fonction du temps. Mais attention, ben, je vous dis tout de suite, c'est un mauvais calcul. Il faut lire le texte qui explique pourquoi. C'est pas la bonne technique à faire. C'est la bonne technique, c'est plus loin, c'est la dernière, ça c'est la bonne technique. Bon, je ne vais pas vous montrer les mauvaises techniques, donc je prends la bonne. J'exécute celui-ci à la place, donc là c'est périodique comme il faut pour ce système-là. Et là vous avez les points, donc là encore vous pouvez a priori même rentrer dans les points. Donc chaque point x, y, c'est un tableau avec deux éléments, etc. etc. Et du coup, donc voilà, ce code fait référence à la page. Donc, this snippet, c'est une référence au bout de code, au petit bout, à la cellule de code en fait. J'ai dit que donne-moi ma propre cellule de code, demande à cette cellule dans quelle page elle se trouve, et dans cette page demande les exemples, la partie exemple, et dans ces exemples donne-moi les équations. Avec ces deux noms-là, et faire une simulation sur cette base avec ces paramètres. Donc je peux maintenant, a priori, changer ici, de façon interactive, les constantes. Par exemple, je pourrais décider, ce que j'avais dit ici, delta est un dixième. Bon, je vais mettre ça un huitième. Et normalement, ça se met à jour automatiquement. Tout se met à jour. Et si je relance mon calcul, ça devrait, bon, je ne sais pas ce que ça fait de changer un huitième, mais ça doit au moins changer quelque chose. Ça doit, off, non, j'ai pas fait, voilà. Ça doit au moins donner quelque chose de différent. Ça a dû changer quelques paramètres quelque part. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc je vais revenir, pour conclure, comme je vous ai dit au départ, j'ai commencé cette réflexion parce que je pars de la reproductibilité. Parce que c'est un des grands conflits qu'on a. On aimerait bien avoir des calculs reproductibles, tout le monde en parle ces derniers temps. Et dans mes cours de reproductibilité, le mot-clé, c'est l'automatisation. On dit toujours à les gens, attention, si vous voulez que vos résultats soient reproductibles, ça doit être le résultat d'un grand calcul unique, parfaitement automatisé, tel que quelqu'un qui veut le refaire va simplement télécharger, pousser un bouton et ça tourne jusqu'au bout. Donc c'est vraiment le mode d'automatisation à fond. En même temps, c'est pas comme ça qu'on aime bien travailler, surtout pas quand on est au début d'un sujet d'étude, dans des phases d'exploratoire, on aimerait bien travailler en interactif. Et aussi la personne qui veut reprendre mon code, faire la reproduction pour valider que c'est bon, normalement veut par la suite jouer avec et faire autre chose et faire ça en mode interactif. Et je me dis que c'est dommage que les deux sont tellement contradictoires. Et c'est pour ça que je me suis plus intéressé au mode interactif. Est-ce qu'on peut trouver un compromis par exemple? Et donc pour rappel, l'obstacle principal à la reproductibilité dans la pratique, c'est que les environnements logiciels qui ne sont pas contrôlés. Donc, par exemple, vous avez votre notebook Jupyter, que ça contient un calcul. Bah, en réalité, ça dépend de Jupyter, des Python, d'une dizaine de bibliothèques Python, typiquement, ou R, peu importe. Et on peut très facilement les oublier. On y fait référence, mais on peut les oublier. On ne sait pas quelle version on a, ou on oublie de documenter. On ne donne pas la possibilité à quelqu'un d'autre de référer un environnement identique, et c'est ça qui cause des problèmes de reproductibilité. Alors maintenant, je viens de vous montrer un système où tout est interactif, tout peut être modifié à tout moment par tout le monde, où je peux redéfinir l'addition de fractions. Ça la cata, non? Je dis que dans un tel système, rien n'est jamais reproductible, je dis que ça ne va pas aller. Mais en fait, mon expérience pour l'instant, c'est tout le contraire. C'est pas que tout ce que je dis est vrai, hein, je peux tout casser. D'ailleurs, la meilleure façon que je connais pour tout casser dans un Sims Smalltalk, c'est lui demander d'inverser false et true. C'est possible, il y a une commande pour ça. C'est comme tout bon philosophe, ça mène à une réflexion éternelle, ça casse le système. Mais dans un système interactif, maintenant que j'ai l'expérience de plusieurs années à vraiment travailler avec, en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Et ce n'est pas un problème parce qu'on n'oublie pas de vue l'environnement, on est toujours dedans. Donc on ne peut pas négliger l'environnement logiciel, l'environnement de calcul, on a toujours sous les yeux, on est parfaitement conscient de tout ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes de reproductibilité, mais ils sont tellement évidents et on les gère au quotidien, que du coup ça ne pose plus de problème en pratique. Pour la même raison que je dis souvent, dans un domaine scientifique bien mûr, bien développé, comme disons, la physique par exemple, dans la physique expérimentale, il n'y a pas de problème de reproductibilité. C'est pas parce que tout est reproductible, mais parce qu'on sait ce qui est reproductible et ce qui ne l'est pas. On sait quelles précautions il faut prendre. Donc c'est un sujet maîtrisé, il n'y a pas de crise, pas de débat. On apprend en première année de thèse, on apprend ce qu'il faut faire pour être aussi reproductible que l'état de l'art le permet. Et après, on n'en parle plus. Et c'est à peu près mon expérience de quelques années en Smalltalk. C'est pareil. A priori, rien n'est garanti d'être reproductible, mais en pratique, ça ne pose quasiment jamais de problème. Et donc, avec ces mots, je termine. Et si vous avez des questions, je vais vous... Mais je crois qu'il y a une séance question plus tard, non? Je laisse les animateurs s'en occuper.
Alors, merci Conrad pour cet exposé et puis cette démo qui a parfaitement marché. Bravo. Du coup, on peut prendre quelques questions dès maintenant, si vous en avez. Quitte à revenir dessus plus tard. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis,
peut-être que je peux commencer, si ça va.
Oui.
Je me demandais, vous parliez du fait qu'on voit tellement l'environnement qu'on ne peut plus se tromper. Je me demande s'il n'y a pas de version logicielle, comment ça se passe du coup.
Oui. Oui, bien sûr. Je dis pas qu'on peut pas, on peut, mais on prend l'habitude de s'y intéresser. Et du coup, on ne néglige pas. Hein. Donc les versions, oui, bien sûr. Il y a, moi, je peux même montrer tout ça. Donc en fait, c'est aujourd'hui dans les Smalltalk modernes, c'est géré par Git. Hein. J'ai par exemple dans mon code là, en fait là, il y a un changement parce que j'ai changé un paramètre dans mes équations. Bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant à regarder, mais il me montre ça. Je pourrais faire un commit maintenant pour le changer. Pas trop envie de faire. Donc là, j'ai ma liste de mes commits avec mes changements. Donc en fait, c'est le même principe que pour le développement logiciel standard de nos jours avec un système comme Git. La différence, c'est l'inversion des priorités. Donc, j'ai pas comme objet principal le code source qui gérait ce Git et après je le compile pour le faire tourner. Mais ma vue principale sur mon code, c'est ça. Et là-dessous, c'est le système qui gère une représentation texte de tout le code dans mon système sous Git. Simplement pour pouvoir utiliser Git, pour pouvoir collaborer, c'est tout, c'est la seule raison. Les premiers systèmes Smalltalk avaient des systèmes de gestion de versions différentes, qui étaient très performantes aussi, mais bon, marche pas sous GitHub. Donc c'était un peu la concession à la vie moderne. Et du coup, oui, il y a évidemment des versions. On peut même donner des tags, des versions numérotées. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui font pas. Comme dit, on a a priori exactement les mêmes problèmes. Il y a même les mêmes solutions. Il y a les développeurs du Glamorous Toolkit, par exemple, qui font la distribution de leur code et qui changent très vite. Bah, ils ont un système de construction d'artefacts logiciels qui fonctionne exactement comme Make ou CMake et tout ça, mais en Smalltalk. Et la différence est plus dans le quotidien de l'utilisateur qui ne fait pas forcément distribution logicielle, mais qui fait la recherche comme moi. Hein, je fais pas pour la distribution logicielle. Du coup, ça ne pose quasiment pas de problème. Simplement parce que pour pouvoir travailler avec, on est forcé d'y penser. Et on peut pas je peux pas avoir un système que quelqu'un d'autre a installé pour moi. Je m'en sers, je n'ai pas la moindre idée où trouver la version. Tout le monde qui travaille là-dessus. Hein, je vois par exemple ici Git, en fait, j'aurais pu le montrer ici. Bah, j'ai tous les deux autres dépôts ici. Hein, je peux regarder dedans. Je vois toujours que tout est dans les dépôts. Donc c'est plus la conscience qui est différente que la technique.
Et comment tu fais, Conrad, pour gérer quand tu as du R, du Python? Comment tout ça coexiste en fait? Tu arrives à faire passer des résultats d'une page en R à une page en Python? Est-ce que ça, tout ça, c'est prévu?
Alors R, non. Il y a une interface pour Python, JavaScript et GraphQL. Et il doit y avoir une explication quelque part dans une page. Python Bridge, voilà, c'est ça. Ah, il n'y a pas encore de documentation. Bon, c'est ici. Ici, c'est JavaScript. Bon, en tout cas, on peut avoir des. Je peux essayer de faire ça. Hein. Je ne sais pas si ça se plante maintenant. Je peux faire un playground. Je peux avoir les cellules Python. Et allons-y. Là-dedans, dans la liste, il y a quelque part Python. Donc tout ça, c'est des types de cellules de code. Et je ne vais pas aller dans tous les détails de tout ça. C'est pas toujours du code. Il y a un truc YouTube qui va simplement intégrer une vidéo. Hein. Non, mais là, il y a des Python. Mais je suis pas sûr que ça marche. Alors, je ferai faire mon calcul en Python et je le lance. On va voir ce qui se passe. Voilà. Parce que pour que ça marche, il faut installer un environnement Python au bon endroit. Et comme je m'en sers très peu, je n'ai pas fait. C'est trop fatigant de toujours pipenv, ça me fatigue. Donc, je n'ai pas fait. Mais a priori, si vous suivez les instructions qui se trouvent quelque part, vous pouvez tout à fait avoir un processus Python qui est lié à ces systèmes. Et donc, vous pouvez ici écrire du code Python dans les cellules, les exécuter, qui sont envoyés en Python, qui tournent dans le fond et qui sont renvoyés. Et pour les, il y a un système, donc les valeurs de base comme des entiers sont partagées dans les deux sens sans problème. Pour les classes Python, il y a une interface pour les convertir. Bon, tout ça c'est bien documenté. C'est un pel qui s'appelle Python Bridge, c'est ce GitHub. Ça marche, je l'ai utilisé. Hein, c'est juste ces derniers temps, j'ai très peu d'occasion de m'en servir. Ça. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire une démo. Mais bon, voilà, pour Python et JavaScript, ça va. Pour R, à ma connaissance, il n'y a pas. On pourrait faire la même chose, mais quelqu'un doit le faire. Et...
D'accord. Et donc, tu peux fixer la version des packages, mais c'est géré du côté du serveur, quoi.
Oui, le serveur, c'est typiquement la même machine quand même. Donc, c'est pipenv. Donc, j'ai un fichier de configuration pipenv pour mon environnement. Et c'est à moi de le gérer.
D'accord.
Et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'est de remplacer ça par Geeks.
Bon, oui. Bonjour. Ça marche avec Geeks aussi, ok.
Il y a Geeks, je travaille sur une interface Geeks, hein, donc ici il y a Geeks, c'est le catalogue des paquets Geeks, ça prend un peu de temps pour l'ouvrir, et j'ai créé des environnements, je peux lancer des commandes dans un environnement Geeks, et alors, j'aimerais bien un jour pouvoir aussi, là, par exemple je peux demander le paquet, par exemple je demande le paquet pour Git, et je peux regarder sa description, je peux voir ses dépendances, la façon dont c'est construit, les outputs divers et variés, etc. C'est bon. Ça, c'est pour les gens qui connaissent Geeks.
D'accord.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Et donc, je continue sur les questions. Après, sauf si vous, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Mais je me demandais quel était le format. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que je peux passer à quelqu'un directement? Est-ce que ça s'exporte? Est-ce que ça se distribue
Alors, les notebooks sont des fichiers JSON qui sont dans les fichiers qu'on peut facilement trouver. On peut, je pense même, je peux même demander l'affichage du JSON. On va voir. Je vais voir l'inspecteur là-dessus. Il y a un truc serialization, je crois. Alors, il y a plein de vues là. Dependency incoming options, dependency map connections. Ah voilà, serialization. Et donc là, ça est vraiment, ça se trouve dans un fichier sur mon disque. C'est géré sur Git. Je peux le passer à quelqu'un d'autre qui pourrait l'importer dans son système à lui. Mais du coup, il faut rester dans l'univers de Grammarly's Toolkit. Je peux l'exporter en Markdown. Et ça, c'est relativement universel, sauf qu'évidemment, dans n'importe quel autre environnement, je peux peut-être dire, je peux lire les textes, je peux afficher le gras et les italiques, mais mes équations, bah, ça reste comme ça, ça reste du texte, et je peux rien faire avec, je peux travailler avec. Donc, c'est comme toute exportation, on perd de la fonctionnalité, hein, mais c'est possible, oui. Je peux aussi faire une exportation en HTML. Non. Ah oui, mais c'est ma faute. J'ai pas défini comment traduire mes équations mathématiques, mes extensions Markdown en HTML, donc je devrais le faire. C'est ma faute.
Ok. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Robin, vas-y.
Oui.
Ah, ouais, on t'entend. Alors, on t'entend.
Bon, bah. Il est en train de taper.
T'as ton micro coupé, sinon, Robin. Il est en train de taper la question. Ah oui. Est-il envisagé de faire une version collaborative?
C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je ne suis pas vraiment derrière ce développement. Je suis sûr que ça fait partie des... Je sais qu'on en a parlé dans le serveur Discord du groupe là. C'est quelque chose qui a priori envisagé, mais si je m'en souviens bien des réponses, c'est pas une priorité du moment. C'est pas ce qui... Ah, il faut peut-être que je précise derrière, c'est un produit d'une petite société en Suisse qui consiste d'11 personnes et c'est un projet à côté. Ils font pas leur argent avec ça, donc c'est assez impressionnant ce qu'ils font à 11 personnes avec ça.
Ça a combien d'années rapidement, du coup?
Ouais. 4-5.
Ouais, c'est assez récent. Hein. Ok.
Bon, Faro, évidemment, c'est vieux. Hein. Faro, hérité de Squeak, de Smalltalk, c'est une vieille histoire. Mais toute l'interface graphique, tout ce que vous avez vu là, ils ont fait eux-mêmes. D'ailleurs, tout est dans Smalltalk. Hein. La moindre caractère, la moindre ligne, tout est dessiné en Smalltalk. Tout est modifiable. C'est impressionnant et c'est très performant. Ça gère du parallélisme. Il y a plein de choses dedans. Hein. C'est vraiment impressionnant. Mais il faut voir que leur priorité, c'est un outil qu'ils développent pour leur propre usage, pour faire du consulting en fait. Et leur priorité, c'est pas tellement le calcul scientifique, évidemment. C'est
un peu. Okay.
Oui, voilà, il y a le lien là-bas. Il y a aussi le lien. Je crois que je l'ai mis dans le. Ah oui, si je savais taper du HTML, hein, donc c'est deux points.
Ok. Ouais, on a donné le lien aussi dans le document.
C'est le lien de ceux qui développent.
Bah écoute, merci beaucoup, Conrad, pour cette présentation, cette démo. Puis voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour discuter, en parler plus longuement, bah il y a toujours le Rocket Chat hein, qui existe, ouais. Où on est présent. N'hésitez pas à venir poser des questions et voilà, discuter avec Conrad. Du coup, je vais passer la main peut-être à Raphaël.
La parole,
ouais. La parole, la main. Là, ouais.
Non, si mais on parle. Tu partages le...
Hop.
Alors, c'est dans le HMD, en fait. Je crois que c'est Manon, hein, Manon Marchand, qui a été partante aussi pour réfléchir à cette question-là. Très rapidement.
On ne voit pas ton écran.
Ouais, un instant, ben, c'est... Ah oui. je le partage en fait, je ne suis pas encore dessus. Excusez-moi. Donc, le GT, en fait, notre book a développé, a déployé un certain nombre de dispositifs et d'outils. Voilà, je vais y arriver. Et donc, il y a notamment la bibliothèque Zotero qu'on a construite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Non. Si, c'est bon.
Ça, je pense que c'est bon.
Et donc, pour l'instant, on a agrégé un certain nombre d'éléments, hein, je vais intervenir très très vite là-dessus, sur cette librairie, mais qui sont finalement plutôt une accumulation en fait de références des différents participants au GT. Donc c'est une bibliothèque de groupe, pour tous ceux qui connaissent Zotero. Et là, par exemple, si je... Descends, mais tu peux me mettre l'écran. Non,
ton écran
que tu vois, voilà. Pardon. C'est normal que j'arrive pas à descendre. Non, tu peux parler. Mon écran apparemment est pas.
Il est pas. Ok. Donc c'était.
Ah, ici. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, ouais, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai essayé simplement de regarder brutalement les métadonnées en fait associées en fait aux références qui ont déjà été agrégées. Il y en a pas mal. Hein, je vais vous le montrer tout à l'heure. Qui sont très intéressantes et en fait on se rend compte que finalement en termes d'organisation des de la bibliothèque pour l'instant voilà c'est un petit peu collaboratif mais pas forcément avec du dialogue et donc l'idée simplement c'est d'y réfléchir pour qu'elle soit utile pour l'ensemble des collègues qui participent au webinaire et éventuellement d'autres personnes là pour l'instant donc il y a 6 collections et les questions qu'on se pose par rapport à cet outil-là, c'est de savoir si on y met ben, les revues de littérature qu'on fait dans le cadre du webinaire, les notebooks qu'on construit, hein, par exemple, et les autres communications des membres du GT, tous les supports éventuellement dont on dispose, en complément, bien entendu, hein, avec le site du GT. Une des propositions, et c'est Manon, hein, Marchand, n'hésite pas à intervenir hein, si tu as des idées aussi, travailler sur les catégories des collections, savoir s'il y a d'autres bibliothèques éventuellement qu'on pourrait lier ou citer quelque part, et puis bien entendu lier ces références bibliographiques avec le projet, un autre projet du GT qui est le projet de base de connaissances qu'on a commencé à développer et sur lequel éventuellement on vous sollicitera ultérieurement, mais qui est un projet ouvert. Et bien entendu, là, la première étape et les premiers constats, c'est la qualité en fait des mots-clés, des métadonnées associées à ces références-là, sur lesquelles il y aurait peut-être un peu de travail, voilà, une méthodologie à mettre en place. Et donc, on a prévu de se voir lundi pour les collègues qui seraient intéressés, à la fois pour regarder la biblio et à la fois en discuter un petit peu. Alors je vais juste vous montrer, je sais pas si ça bascule, ouais, ça bascule au bon endroit. Donc voilà la bibliothèque, hein. Elle est là. Hein, et donc vous voyez qu'en fait les références, il y a des références assez récentes. C'est beaucoup des références en anglais, mais il n'y a pas que cela. Et vous avez bien entendu des choses assez hétérogènes pour l'instant. Sachant qu'il y a des questions qui se posent sur le literate programming, voilà, des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a des ouvrages plutôt philosophiques, il y a une catégorie notebook qui contient un grand nombre de références, etc., etc. La reproductibilité, évidemment, puisque Conrad en parlait tout à l'heure. Sachant que les contributions peuvent être donc pas des références en français, en anglais, éventuellement d'autres langues, s'il y a des collègues qui parlent d'autres langues, mais l'idée c'est de regrouper un petit peu les éléments et d'essayer d'organiser en fait les entrées dans cette bibliothèque là. Voilà, donc pour ceux et celles qui le souhaitent, vous m'envoyez un petit mail. Manon, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Non, ça me semble bon, j'ai l'impression que tu as tout dit.
Non, merci. Je te vois lundi matin.
Oui.
De manière très conviviale, donc vous êtes les bienvenus.
Et oui, je crois que le groupe est sous modération, c'est ça. Mais bon, après, si vous en faites la demande, il n'y a pas de problème pour accéder. Enfin, il est visible de toute façon, mais si vous voulez rajouter des références, voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que ça vient un peu de toutes les disciplines, les références, ça vient de l'informatique, ça vient de... Et comme il y a des nouvelles choses qui émergent aussi du côté de la reproductivité, enfin, donc du coup, voilà, l'idée c'est aussi de peut-être de monter en généralité pour essayer de voir quelles sont les tendances, quels sont les groupes de travail qui se montent sur les pratiques, par exemple. Ou, voilà, donc il y a plein de choses qui nouvelles dans ce champ-là, et c'est une façon de faire de la veille qui me paraissait assez chouette, quoi.
C'est la catégorie pratique, hein, mais voilà, enfin, c'est vraiment à nous de co-construire tous ces éléments-là. Et bien entendu, c'est évolutif, et ce travail sera restitué lors d'un des webinaires.
Ouais. Voilà.
Donc, envoyez-moi un mail pour ceux et celles qui souhaitent avoir la visio, le lien visio pour le rendez-vous de lundi matin. Et merci beaucoup, Manon.
Voilà. Est-ce que, du coup... Et est-ce que du coup, je crois que maintenant on avait le dernier point, s'il y a des questions évidemment, on pensait à Emilien qui participe à la JupiterCon et à qui on a proposé de nous faire une petite introduction sur cet événement. Parce qu'on n'est pas du tout, on sait que ça existe, mais on n'y a jamais mis les pieds. Donc on s'est dit, ce serait chouette de présenter. En quelques mots, cet événement qui a lieu en mai, qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Voilà.
Ça va être très rapide. J'espère de plus au cœur de la communauté. C'est un événement qui est un community event qui a pour but de rassembler en physique en fait un peu tous les participants de l'écosystème Jupiter et qui a lieu une fois par an, une fois tous les deux ans. Ça varie en fonction des situations. Et cette année. Ça a lieu à Paris, à la Cité des Sciences, et qui a lieu donc le 10, le 11 et le 12. Et c'est un événement qui est vraiment très mixte, donc pas du tout forcément orienté recherche. Et donc, ça réunit notamment du monde de la data science, les partenaires de Jupiter par ailleurs. Il y a Bloomberg qui est là, etc. Donc, ça brasse très large. Mais il y a au moins deux sessions qui sont une pour la recherche et une aussi beaucoup pour la question de l'enseignement. Donc il y a énormément de communication, ça va du très technique à du très général sur les usages, notamment dans l'enseignement, la pédagogie, donc ça peut intéresser certains et certains d'entre vous. Ça reste un événement qui est payant et assez cher, le ticket d'entrée est à $400, je crois, parce que c'est quand même orienté vraiment plus communauté aussi d'acteurs privés. Après, j'imagine qu'on peut faire des demandes pour y accéder. Il y a notamment aussi un tutoriel d'un jour organisé le jeudi à destination des étudiants, notamment d'introduction de base au Jupyter Notebook et à la programmation en Python, où j'interviens en tant que helper. Et d'ailleurs, potentiellement, il peut y avoir encore besoin d'aide. Donc, si certains d'entre vous ont envie de donner un coup de main en tant qu'aidant, c'est pas moi qui fais le cours, c'est Marianne, j'oublie son nom, une data scientist de Lyon. Voilà, c'est besoin. Si quelqu'un veut être volontaire pour donner un coup de main et avoir le ticket d'entrée, je pense qu'il y a moyen d'avoir la possibilité. Voilà, je donne appel aux bénévoles à tout le monde. Ça c'est pourquoi. Et personnellement, j'y vais parce que j'essaie de représenter un peu les sciences humaines et sociales de la communauté Jupiter et donc de présenter un peu ce qui a été fait, donc de bricoler, faire une présentation sur les quelques initiatives qui existent. Et je serais heureux d'ailleurs de relayer un peu le travail du travail notebook et de dire qu'on est dans un moment un peu de réflexion transversale, sachant que il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de réflexion transversale, justement, interdisciplinaire, aussi avec une vocation réflexive sur l'usage en recherche pour l'instant. Donc, ça sera un peu l'occasion d'annoncer ça et peut-être de nourrir un peu la discussion. À titre personnel, j'y vais surtout vers du terrain, en fait, pour aller voir un peu ce qu'est cette communauté et continuer à garder le lien. Pour vous donner une idée, le programme, je l'ai mis dans le compte rendu, mais je vais le mettre aussi dans le lien si vous voulez jeter un coup d'œil. Il va y avoir notamment Fernando Pérez qui va faire une communication sur la roadmap. Donc Fernando Pérez qui est le créateur de IPython, qui est devenu ensuite Jupyter Notebook à partir IPython 2011 et qui a évolué vers le Jupyter Notebook. Donc je vois que sur l'écran il y a la présentation du programme. Donc, vous voyez, c'est vraiment très divers en termes de présentation. Avis à ceux qui sont intéressés. Pour la question des helpers, si jamais ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail et je ferai suivre aux organisateurs, notamment Mathias Bussonnier, qui est un des core développeurs d'IPython, qui s'occupe de ça pour la partie française. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est un peu transversal comme présentation.
Est-ce que tu sais juste si c'est retransmis, par exemple?
Je ne sais pas, et je pense que oui, il y aura une captation vidéo.
Ok.
La logique est sympa.
Il y a des années précédentes sur YouTube qui sont disponibles. Du coup, j'imagine que oui. À moins que ce soit Covid qui est forcé.
Non, non, je pense qu'ils le feront. Ils le feront. Ils s'assurent beaucoup de SciPy, qui est la grande messe après la scientifique en Python à Austin, qui est intégralement retranscrite avec. Et donc, je pense que le format est le même en termes d'ouverture.
Et il n'y a pas de off, hein. C'est, il y a juste l'événement et il n'y a pas forcément un truc avec
des. L'événement.
Ouais.
Non, il y a que le on, et puis il y a les deux jours de sprint de développement sur Jupiter qui prennent lieu ensuite et qui est une autre session mais déconnectée de la partie centrale. Il faut s'inscrire spécifiquement.
D'accord.
Pour développer les outils. Mais ça, je connais peu parce que je ne participe pas directement à la communauté de développement Jupiter.
Ok. Bah super. Tu nous feras un retour alors.
Bien sûr.
Et j'y serai aussi, j'ai un poster et je participe au premier jour du hackathon. Du coup,
ah, super.
Je pense qu'on va faire le retour ensemble. Ouais, on peut peut-être se rencontrer en vrai du coup.
Ah, trop bien. Bah, ouais. Plaisir, oui. Bah, le hackathon, il est sur quel thème? Il y a.
Nous, on le fait parce qu'on développe un widget. Et du coup, j'aimerais rencontrer d'autres développeurs de widgets pour parler des problèmes qu'on a. Niveau intégration JavaScript et Python, mais ce sera très spécifique. Donc j'y suis là, enfin j'y vais juste au premier jour pour attraper les gens et leur poser des questions. Donc,
D'accord, voilà. Bah super, parce que justement, je ne savais même pas ce que voilà la dynamique, je n'ai pas participé au hackathon à Jupiter.
Ok, super, bon. Eh bien merci, on arrive au bout du... Il est 14h30, donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions... On peut enchaîner et puis peut-être présenter, donner un petit avant-goût de ce qu'il y aura le 11 mai. Bah tu vois, du coup on est dessus, c'est parfait. Donc on va avoir le 11 mai, on a réussi à avoir deux équipes qui sont des projets en fait à la fois en lien avec l'édition et le déploiement, la reproductivité des notebooks. On a l'équipe de Computo, donc avec la présence de Ghislain Durif. En fait Computo c'est vous pouvez aller voir sur internet, mais c'est un journal hein, qui a pour vocation d'être complètement reproductible, qui est basé sur Quarto et qui utilise en fait un système de peer reviewing avec une revue de code des notebooks qui sont le support hein, pour la publication, avec un workflow de publication de soumission qui utilise Scholastica. Donc voilà, c'est un beau produit qu'on. Donc ça fait partie des initiatives comme Erzine, comme Rescience, de journaux qui commencent à se mettre en place un peu bottom up à partir des pratiques hein, avec du coup c'est un modèle un peu similaire mais bien structuré, donc ils vont nous présenter ce qu'ils font. Et à côté de ça on aura la plateforme Onyxia avec plusieurs personnes hein, Frédéric Comte, Lino Galliana, Romain Avoac et Romain Le Sueur qui viendront nous présenter cette plateforme hein, qui est développée par l'INSEE en collaboration avec la DINUM, donc au niveau de l'État, et qui propose en fait une plateforme open source. On est sur une infrastructure beaucoup plus lourde hein, qui passe à l'échelle avec du Kubernetes, du Docker, du GPU et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme de support des notebooks en R et en Python, qui permet un passage à l'échelle avec beaucoup d'utilisateurs et qui propose tout un tas de services qui vont donc certes de la reproductibilité, mais aussi à la valorisation, je pense, des notebooks, le partage, etc., la collaboration. Donc voilà, ils vont nous présenter la plateforme, peut-être avec un focus sur cette question justement de la reproductibilité, puisque Computo, à côté de ça, est un journal qui s'appuie sur Quarto. On voit bien les échanges qui pourraient avoir lieu entre des plateformes open source qui sont développées et puis des journaux qui eux-mêmes sont peut-être à la recherche d'infrastructures, parce que forcément, que ce soit Computo, Erzine ou d'autres, il y a cette nécessité hein, d'héberger les notebooks, d'avoir des outils adaptés pour faire de la revue de code, etc. Donc de questionner un peu de façon transverse à la fois les plateformes qui se mettent en œuvre et puis les journaux qui émergent, ça nous paraissait un chouette programme. Donc ça aura lieu le 11 mai, puis on vous attend nombreux. Voilà.
Et un appel aussi donc ceux et celles qui souhaitent partage d'expérience. Donc ce sont des petites interventions qu'on suggère en fin de webinaire qui peut durer 5 à 10 minutes. Voilà. et ou, si vous le souhaitez, hein, alors pas forcément en lien avec le groupe Zotero, mais des revues de littérature, évoquer un article qui vous paraît pertinent par rapport au sujet ou de vos travaux actuellement en lien avec les notebooks. Mais donc, on a ces petites séquences qui arrivent à la fin du webinaire, il ne faut pas hésiter. Et puis, si vous avez des besoins, des questions, le souhait de travailler, de monter un petit atelier autonome, n'hésitez pas à envoyer la proposition sur la liste de diffusion. Voilà, et puis on a éventuellement mettre des moyens à disposition pour que les collègues puissent échanger sur leurs pratiques. Voilà, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je ne sais pas s'il reste encore des questions, mais sinon on vous dit à bientôt, dans un mois. Et puis de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Merci.
Merci.
Oui.